Bonjour à chacun. Je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Thessaloniciens au chapitre 5 où nous avons déjà lu tout à l'heure et où nous allons reprendre les versets 16 à 20. Des versets qui vont nous montrer ce matin le mode de vie que Dieu veut pour nous. Parce qu'il dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce mode de vie. Alors nous lisons, quel est ce mode de vie ? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Voilà, ce matin nous allons nous occuper de ces cinq choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Et c'est véritablement un mode de vie auquel le Seigneur nous invite, plus qu'une invitation, c'est un ordre. C'est sa volonté. C'est sa volonté à notre égard. Et il nous donne le moyen de le vivre. Alors la première chose nous surprend. Soyez toujours joyeux. Ça c'est étonnant parce que pour nous la joie, on a plutôt le sentiment que on ne la contrôle pas. Elle est là ou elle n'est pas là. C'est tout. On a du mal à se dire, ben la joie, tiens, je peux mettre sur on ou sur off. C'est pas moi qui décide. Si je déprime, si je suis dans la dépression, et puis j'y peux rien. Et puis quand ah ben ça va, j'ai la joie, ben j'ai la joie, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est pas... Alors comment est-ce que je peux adopter un mode de vie où Dieu me dit, soyez toujours joyeux, sans être hypocrite ou faux ? Est-ce que le Seigneur me demande d'avoir une fausse joie, le sourire, vous savez, j'ai la banane, mais en vrai, c'est pas vrai. Non. Et là, c'est vrai que, je vous l'accorde, on est en face de quelque chose qui est un paradoxe. À vue même. Parce qu'effectivement, sans Dieu, l'être humain, sans Dieu, eh ben, la seule option qu'il ait pour être joyeux, ben, c'est que tout aille bien. Quand ça va bien, quand il y a des motifs de réjouissance, quand j'ai gagné au loto, quand j'ai trouvé l'amour de ma vie, quand j'ai été augmenté à mon travail, quand j'ai fait une bonne affaire immobilière, quand il fait beau, que le soleil brille, quand je suis en bonne santé, eh bien oui, c'est quand même plus facile d'être joyeux. Et sans Dieu, l'être humain, il a une tendance comme ça à être joyeux quand grosso modo ça va bien pour lui dans la vie, mais quand ça ne va plus, quand il y a des problèmes de santé, quand il y a des problèmes d'argent, quand il y a un deuil, quand il y a des épreuves, quand il y a des contrariétés, quand il y a des ennemis, quand il y a des blessures, sans Dieu l'être humain ne reste pas joyeux. Et c'est justement là le cadeau que Dieu fait à ses enfants, c'est de pouvoir être joyeux en toutes circonstances. Que les choses aillent bien ou que les choses n'aillent pas bien, Dieu nous dit, tu peux conserver dans ton cœur la joie de Dieu. Regardez avec moi 2 Corinthiens 6. L'apôtre Paul vit des choses difficile, il rencontre tout un tas de problèmes. La prison, les travaux, ne pas avoir à manger, les coups, on le voit au verset 5, 2 Corinthiens 6, verset 5. Il lui arrive des tas de problèmes. Et le regard extérieur, comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, le verset 10 nous dit « comme attristé ». Évidemment, ça fait jamais plaisir de recevoir des coups. Évidemment, ça fait pas super plaisir de se retrouver en prison pour sa foi. Évidemment, ça fait pas extrêmement plaisir d'avoir faim et de manquer de nourriture. Et pourtant, Paul, au verset 10, il dit comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Attristé, oui, mais nous sommes toujours joyeux. Et il y a avec Dieu la possibilité d'un paradoxe, joyeux, même dans la tristesse. Alors là, c'est bizarre, hein, vous allez dire, c'est trop bizarre ce truc. Joyeux, même dans la tristesse. Oui, frères et sœurs, Dieu fait ce miracle que notre joie ne dépend pas des circonstances. Avec Dieu, c'est possible. Il est possible de conserver à l'intérieur du cœur une joie de Dieu qui ne dépend pas si les choses vont bien ou les choses vont mal pour moi. On préfère toujours qu'elles aillent bien. Mais par contre, l'avantage de celui qui marche avec Dieu par rapport à celui qui marche sans Dieu, c'est que même quand les choses vont mal, il y a ce miracle qui peut se produire de conserver au cœur même de la tristesse et de l'affliction et des problèmes, dans le cœur, de conserver la joie. Paul dit attristé, mais toujours joyeux. Et le cadeau que Dieu fait à ses enfants, c'est que nous pouvons, ce que le monde ne peut pas, nous pouvons choisir entre deux modes de vie. Nous pouvons choisir entre le mode joie ou le mode plainte, apitoiement. Je regarde ce qui ne va pas, mes problèmes, et je les laisse m'envahir. Et je n'ai plus de quoi me réjouir. Le Seigneur, il nous dit ailleurs, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Et donc dans notre texte ici ce matin, trois mots très simples. Soyez toujours joyeux. Un mode de vie. On y reviendra. Deuxième chose, priez sans cesse. Et nous constatons dans les trois premiers versets que ce sont, vous avez vu, des absolus. Toujours, sans cesse, en toute chose. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toute chose. Voilà, un absolu. Toujours, sans cesse, en toute chose. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est un mode de vie auquel Dieu nous sollicite. Priez sans cesse, la prière. On pourrait parler de la prière et de tous les sujets et les types de prières. Et quand on commence à réfléchir tous les types de prières et les sujets de prière, on dit finalement oui, on peut passer beaucoup de temps à prier. Mais là, ce matin, je veux surtout insister sur ce mode de vie, prier sans cesse, c'est quoi la prière? C'est parler à Dieu. C'est être en connexion avec Dieu. C'est ce mode de vie connecté avec Dieu. Nous avons le choix entre deux modes de vie. Le mode solitude ou le mode communion. Solitude spirituelle ou communion avec Dieu. Je peux traverser mon existence, je peux traverser ma semaine connecté avec Dieu parce que je prie sans cesse. Je peux traverser ma semaine en relation avec lui ou je peux traverser ma semaine dans la solitude. Alors bien sûr, le monde, celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, il n'a qu'une seule option, c'est la solitude spirituelle. Il n'a pas accès à la communion avec Dieu. Parce que pour avoir accès à la communion avec Dieu, il s'agit de se réconcilier avec Dieu, de se convertir à Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». La seule option du monde, c'est la solitude spirituelle. Alors, le monde va compenser cette solitude. Il va compenser cette solitude de Dieu en se remplissant d'amis, avec de relations. Et il va essayer de combler cette solitude spirituelle. Il va essayer de la combler en partageant des valeurs avec des gens. Il va essayer de la combler en ayant des objectifs de vie où il va se réaliser. Mais il traverse l'existence seul. Le cadeau que Dieu nous fait, frères et sœurs, c'est de pouvoir traverser l'existence avec Dieu pour ami. Et je vous invite à chanter le 118 qui sera projeté. Avoir Dieu pour ami, on va le chanter comme partie intégrante du message. 118, avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main. Voilà le cadeau que Dieu nous fait. Nous avons le choix. Il nous fait ce cadeau de pouvoir marcher en mode communion plutôt que dans la solitude spirituelle.
Avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, suivre le même chemin, avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, construire nos lendemains, joie d'un compagnon de joie, celle d'un ami tout proche de moi, paix d'un compagnon de paix, ami fidèle à jamais, vie d'un compagnon de vie, rythme de mes jours et de mes nuits, cœur d'un compagnon de cœur, souffle même du Seigneur, avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, suivre le même chemin, avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, construire nos lendemains. Dieu d'amour, mon ami, chaque jour je veux partager ta vie. Dieu d'amour, mon ami, chaque jour je veux partager ta vie, avoir Dieu pour ami. Marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, suivre le même chemin, avoir Dieu pour ami. Marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, construire nos lendemains.
Alors voilà, voyez-vous, ce cantique exprime formidablement ce que c'est que prier sans cesse. Ce que c'est que traverser l'existence, traverser sa semaine et sa journée, non pas en mode solitude, mais en mode sans cesse connecté. Et la joie vient d'avoir cette amitié à nos côtés. Je ne traverse pas seul ma journée, mais je la traverse main dans la main avec mon ami et un compagnon de joie. Alors c'est bien plus simple de vivre en mode joie quand j'ai à mes côtés un ami de joie. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre grâce, c'est remercier. C'est reconnaître quelque chose de positif. C'est l'attitude du cœur qui cherche des motifs de pouvoir dire merci pour quelque chose. Je regarde ma journée et je me dis, tiens, pourquoi est-ce que je peux dire merci pour cette journée? Bah, elle était comme toutes les autres. Voilà, quoi. Moi, je dis merci quand je reçois un truc un peu exceptionnel et spécial, tu vois. Mais alors, quand c'est comme tous les jours, je vois pas pourquoi je vais dire merci. Mais peut-être tu peux dire merci parce que, justement, c'est comme tous les jours. Tu aurais pu avoir un accident de voiture. Tu aurais pu avoir un feu de cheminée, tu aurais pu avoir ta femme qui te quitte. Ça arrive, hein, comme ça, un jour, paf. Ah, là, c'est pas une journée comme les autres, hein, ça c'est sûr. Vous savez, le mode gratitude. On peut vivre, nous avons le choix de vivre selon deux modes de vie. La gratitude, c'est-à-dire ce cœur qui cherche et qui est prêt à dire merci. Ou alors, le cœur blasé. Ben, c'est normal. Tout est normal. Vous savez, tout ce qu'on a de bien, ben, c'est normal. J'ai à manger, ben, c'est normal. J'ai tes parents, ben, c'est normal. J'ai une épouse, ben oui, mais c'est normal. Je suis quand même pas moche, c'est normal qu'elle m'ait choisi et tout ça. Ben, normal, ben, normal. Tout est normal. Et on nous dit, on n'a pas le cœur qui dit merci pour rien. Ben c'est pas du tout la volonté de Dieu pour nous. Il veut que nous adoptions un mode de vie de reconnaissance, de remerciement, de gratitude, un mode de vie où on cherche, où on est prêt à dire merci pour les, même les petites choses. Et il y a un cantique pour enfants qui dit un cœur joyeux, un cœur content rend le visage plus beau qu'avant, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus, mais oui, un cœur content, un cœur joyeux, qui sait, qui a cette volonté d'avoir quelque chose à trouver pour dire merci. Et je me souviens dans mes cours d'institut biblique, lorsque nous étudions ce passage, il disait en toute chose. C'est compliqué, en toute chose. Et un auteur chrétien à cet égard disait, eh bien, aujourd'hui je me suis fait agresser et voler mon portefeuille. Comment est-ce que je peux rendre grâce en cela? Il dit, eh bien, je remercie le Seigneur que mon agresseur ne m'ait pas planté un coup de couteau. Je remercie le Seigneur pour cela. En toute chose, je peux rendre grâce. Vous allez dire, et dans les épreuves, n'oublions pas ce que l'épître de Jacques nous dit. Relisez avec moi Jacques, chapitre 1. Un passage qui nous rappelle autant la joie, soyez toujours joyeux, que la reconnaissance, que la gratitude, malgré les épreuves. Jacques chapitre 1 verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oui, il y a peut-être des fois où, de façon très terre à terre, je ne vais pas avoir de quoi rendre grâce. Il y a un moment, il faut appeler un chat et on ne peut pas transformer en blanc ce qui est noir. Donc, de façon terre à terre, il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a des choses pour lesquelles c'est compliqué de s'en réjouir, de manière terre à terre. Mais celui qui est dans le Seigneur, il n'est pas que terre à terre, il est aussi terre à ciel. C'est-à-dire ce qui se passe sur terre a aussi un rapport avec le ciel. Et là, ce passage nous dit quoi? Il dit oui, ok, de façon terre à terre, les épreuves, ok, c'est pas un sujet de joie complète. Pas du tout. Mais de façon terre à ciel, c'est-à-dire dans l'optique spirituelle, il dit, vous pouvez quand même vous en réjouir parce que ce n'est pas inutile. Ça va façonner votre cœur, ça va façonner votre âme. Ça va vous construire à l'intérieur de vous. Dieu va faire une œuvre en vous qui va être belle et utile. Et vous allez en sortir meilleur qu'avant, vous allez en sortir plus beau, plus comme Jésus-Christ. Alors, même quand on ne peut pas rendre grâce de manière terre à terre pour des choses, le chrétien a toujours l'ouverture réelle de pouvoir rendre grâce pour l'aspect spirituel. Et là, nous voulons faire pleinement confiance à Dieu lorsqu'il nous dit, comme en Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous voulons faire confiance au Seigneur lorsqu'il nous invite, comme ici dans Jacques, à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Non pas à cause de leur aspect terre à terre, mais de leur dimension qui va jusqu'au ciel pour notre âme. Et oui, oui, le chrétien, quand il prend cette optique, quand il choisit cette optique de regarder son âme, de ne pas rester sur le regard terre à terre, mais de regarder son âme vis-à-vis de Dieu, oui, on peut rendre grâce. Oui, on peut, au sein même de l'affliction, néanmoins être toujours joyeux. Alors nous avons vu ces modes de vie. Un mode de vie joyeux ou bien de plainte et d'apitoiement. Un mode de vie connecté avec Dieu ou bien de solitude. spirituel. Et un mode de vie de gratitude, d'un cœur qui cherche tout le temps à dire merci. Un cœur émerveillé parce qu'il reçoit en fait, c'est ça la chose. C'est un mode de vie où je me laisse émerveiller parce que je m'aperçois que je reçois et je dis merci. Ou alors au contraire un mode de vie où je dis bon, moi je reçois rien, je suis blasé, dépité. Seigneur nous dit, écoutez, moi, ma volonté pour vous à votre égard, c'est le mode de vie toujours joyeux, sans cesse connecté et toujours émerveillé de recevoir quelque chose. C'est ce que je veux pour vous. Évidemment, lorsqu'on entre dans ce mode de vie, la joie est au rendez-vous. Est-ce que c'est possible pour la personne qui est sans Jésus-Christ? Non. Non. Mais pour le chrétien, en Jésus-Christ, il a réellement la possibilité de faire on ou off. La vraie possibilité de choisir entre les deux. Ça ne veut pas dire que le chrétien choisit le mode de vie que Dieu veut pour lui. Mais il peut le faire. Et il est invité à le faire. Alors justement, nous terminons par les deux derniers qui sont directement liés à ce mode de vie. Deux choses qui rendent possible le mode de vie que Dieu veut pour nous. Toujours joyeux, sans cesse connecté à Dieu et émerveillé de recevoir. Il s'agit du Saint-Esprit et de la parole prophétique. Il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Je peux vivre rempli de l'esprit ou vide de l'esprit. Et ça a un impact direct. En Galates 5, 22, qui développe le fruit de l'esprit, qu'est-ce qu'on trouve dans le fruit de l'esprit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie vient en deuxième. Alors, évidemment, dans le verset 16 qui nous dit « Soyez toujours joyeux », si le Saint-Esprit manque dans ma vie, je ne sais pas de quelle joie je vais pouvoir être joyeux, mais pas de la joie de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Et plus le Saint-Esprit va me remplir, et plus je pourrai vivre le verset 16 « Soyez toujours joyeux ». Hélas, bien souvent nous éteignons l'esprit. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Ne l'éteignez pas parce que ça va être. Si vous éteignez l'esprit, ça va devenir drôlement compliqué de vivre en mode joie, en mode connecté et en mode gratitude. D'abord, en mode connecté, on se demande comment on va pouvoir être connecté parce que nous prions par l'esprit. Et même quand dans nos prières on ne sait plus quoi dire, nous dit Romains 12 je crois, l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Voilà, il prend le relais. Alors évidemment, si j'éteins l'esprit, ma vie de prière, ma connexion avec Dieu, ça va être du pipeau. Il n'y aura plus rien. Si j'éteins l'esprit, je vais me retrouver en mode solitude et en mode apitoiement si les circonstances vont mal. C'est le Saint-Esprit qui nous permet également, il dit rendez grâce par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner des motifs où je dis ah mais finalement je croyais n'avoir rien reçu aujourd'hui, et bien j'ai quand même reçu des choses et j'en remercie le Seigneur. Le Saint-Esprit me rend sensible à ce que je reçois. Comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? Déjà par le péché. C'est pour ça qu'au verset 22, il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Le péché attriste et éteint l'esprit. Si je résiste au Saint-Esprit lorsqu'il m'a montré un péché à régler que je fais de la résistance. J'éteins l'esprit. Et j'éteins donc cette dynamite, cette énergie, cette puissance divine qu'est le Saint-Esprit en moi. Le péché, mais aussi la volonté de Dieu. Lorsque je résiste à la volonté que Dieu montre pour ma vie, voilà, plus haut il disait, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si je résiste à la volonté de Dieu que le Saint-Esprit me montre, j'éteins l'esprit. Est-ce que le Saint-Esprit vous a montré quelque chose, une direction dans laquelle aller, et on l'écoute pas, on résiste, on n'obéit pas? Alors on l'éteint. Et puis enfin, tout simplement, j'éteins l'esprit lorsque je ne viens jamais m'asseoir avec Jésus. On en a tellement parlé en Éphésiens, s'asseoir, vraiment s'asseoir avec Jésus. Comment est-ce qu'on peut se remplir du Saint-Esprit lorsqu'on ne vient jamais s'asseoir avec Jésus pour le rencontrer, pour lui parler, pour se connecter profondément? Et puis, il y a cette seconde chose, ne méprisez pas les prophéties. C'est quoi la prophétie? C'est quand Dieu parle par un canal, par un intermédiaire. Alors, bien trop souvent, nous confondons la prédiction et la prophétie. La prédiction, c'est prédire des choses qui vont arriver dans le futur. La prédiction fait partie de la prophétie, mais elle n'en représente peut-être que 10%. La prophétie, c'est simplement lorsque Dieu parle, et Dieu ne parle pas toujours pour dévoiler des choses futures qui vont arriver. Non, il me parle par exemple en me disant « aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'est une prophétie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas une prédiction. Et la parole de Dieu, elle est remplie de prophétie. C'est la prophétie. Regardez avec moi 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1, et qui fait écho à cet ordre, ne méprisez pas les prophéties. Ici, c'est dit autrement. Il dit, nous, 2 Pierre chapitre 1 verset 19, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Voilà. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et regardez la suite. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons là l'explication de qu'est-ce que c'est que la parole prophétique. Et les 66 livres que nous avons sont 66 livres qui sont des prophéties de l'Écriture et qui sont non pas une parole apportée par une volonté d'homme, mais poussée par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. En 2 Timothée 3, nous avons ce beau verset également sur le canon biblique 2 Timothée chapitre 3 verset 16, qui parle donc de la Bible et qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », c'est-à-dire insufflée par son esprit. On a lu tout à l'heure en Pierre, c'est poussé par l'esprit. C'est ça la parole prophétique. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les prophéties, quand il dit ne méprisez pas les prophéties, par excellence et en tout premier lieu, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Bien sûr, à l'époque, les Thessaloniciens n'avaient que la moitié, n'avaient que l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Et Dieu, alors abondamment, veillait, pourvoyait, par les prophètes, dans l'Église, à communiquer ce qu'il nous a communiqué maintenant par écrit, afin qu'ils puissent comprendre leur nouvelle identité en Christ, la mettre en relation avec la partie de l'Ancien Testament. Oui. En second lieu, les anciens de l'Église sont, pour l'Église locale, les premiers prophètes qui parlent de la part de Dieu. Parce que le Seigneur les a établis évêques pour paître, pour nourrir, pour enseigner. Et ils sont les premiers prophètes dans l'Église locale, au travers desquels Dieu parle. Alors il dit, ne méprisez pas les prophéties. Comment est-ce qu'on peut mépriser les prophéties ? Tant les prophéties bibliques que les prophéties des serviteurs de Dieu que Dieu utilise dans l'Église locale pour parler à son peuple. D'abord, par excellence, la prophétie, la parole prophétique, la Bible. Comment est-ce que je peux la mépriser ? Eh bien, par exemple, lorsque je dis « Oh, mais la Bible, c'est compliqué. Il y a des mots trop compliqués. Franchement, c'est un texte, c'est dur à comprendre. Moi, j'y comprends rien. » Voilà. Donc, je ne la lis pas. Mais pardonnez-moi, vous méprisez l'œuvre de Dieu. Parce que vous êtes en train de dire « Dieu s'est trompé de littérature. » S'il avait voulu me le rendre accessible, il avait qu'à choisir des mots plus simples. Il ne l'a pas fait, tant pis pour lui. Trop compliqué, je ne lis pas. C'est réservé à une élite intellectuelle. Vous croyez que la parole de Dieu est réservée à une élite intellectuelle ? Oui ? Non ? Je ne dis pas qu'elle est simple. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Et ça, je l'affirme, le Seigneur ne s'est pas trompé quand il a écrit la parole. Elle est accessible. Et moi, ce que je trouve formidable le vendredi, quand on se retrouve une fois par mois pour le petit déjeuner du cœur, c'est qu'on prend un texte, comme on l'a fait ce vendredi, on se met tous ensemble, chacun lit pour lui-même. Eh bien, moi, ce qui m'émerveille, c'est que quand on s'y met, vraiment, il n'y a pas une seule personne qui n'avait pas quelque chose à partager. Vrai ou faux ? Hein, vendredi dernier, on a fait le tour, mais tout le monde avait quelque chose, tout le monde avait compris au moins une chose pour son cœur qu'il pouvait partager. Alors quand on dit « Ah non, mais c'est trop compliqué, etc. », c'est une façon de mépriser les prophéties. Ouais, bon, c'est sûr. Ouh là là, la vie. Ouh. Attends. C'est Dieu qui te parle, là. Il a choisi de le faire par l'Écriture. Et tu le mets de côté d'un revers de main parce que c'est compliqué. Mais ne méprise pas. Médis-toi et tu verras qu'il y a des choses à y comprendre. Applique ton cœur. Ouais, mets-y un petit effort. Ne le méprise pas. D'autre façon, bien sûr, de mépriser les prophéties, c'est de ne jamais les lire. Alors, on ne dit pas qu'on méprise la parole de Dieu. On ne dira jamais qu'on méprise la parole de Dieu. Mais dans les actes, quand pendant un mois, deux mois, trois mois, jamais je n'ouvre la parole de Dieu, les actes sont juste en train de dire que je méprise la parole de Dieu, la parole prophétique. Je dis, en fait, dans ma vie, pendant trois mois, j'en ai pas besoin. Enfin, par contre, on n'oublie jamais de manger. Hein. Ça, rassurez-vous, Jésus, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il savait pourquoi il disait ça. Par contre, pendant trois mois, vous n'allez pas oublier de manger. Ça montre bien qu'on est en train de mépriser les prophéties. Et puis, d'autres manières de mépriser les prophéties, c'est de mépriser la fréquentation de l'assemblée. Où est-ce que Dieu parle prophétiquement ? À l'église, dans l'église locale, par les serviteurs, par la prédication, par les uns et les autres, par ce qui s'y passe. Alors c'est sûr, quand je viens une fois de temps en temps, comme ça, de façon un peu aléatoire, j'oublie que c'est l'endroit où Dieu est en train d'apporter la parole prophétique. Oui, c'est vrai, ce dimanche, il y a la parole prophétique de Dieu qui est annoncée. Mais je vais faire l'impasse, puis la semaine prochaine, je verrai bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de mépriser les prophéties ? Alors, la place de la parole de Dieu dans tout ce qui précède est fondamentale. Toujours joyeux, connecté. Regardez en Jérémie 15, verset 16. Vous allez voir le lien entre la parole prophétique qu'on ne méprise pas et la joie d'un cœur. Jérémie 15, verset 16. Nous avons l'expérience du prophète. Et quelle est son expérience ? Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voilà l'expérience du prophète. Il dévore les paroles de Dieu. Lorsque Dieu parle, il recueille ce que Dieu dit. Il le dévore et dit, ça fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Et il sait que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Et je peux les mépriser en les mettant de côté dans ma vie. Lorsque je ne lis jamais la parole, lorsque je viens rarement là où la parole prophétique est prêchée. Or, les paroles de Dieu font la joie et l'allégresse d'un cœur. Toujours connecté. On a dit c'est compliqué de prier sans l'esprit. Mais c'est tout aussi compliqué de prier sans la parole. Pourquoi ? Parce que quand il dit prier sans cesse, soyez toujours connectés, le problème c'est que lorsqu'il n'y a plus de parole prophétique, c'est-à-dire lorsque Dieu ne parle pas, ma prière devient un monologue. Je parle tout seul. Je suis le seul à parler. Et je parle tout seul. Parce que je n'écoute pas ce que Dieu veut me dire, ce que Dieu peut me répondre. La prière, c'est un dialogue. Être connecté avec Dieu, c'est pas juste moi parler à Dieu. Vous avez des gens au téléphone, vous ne pouvez pas en placer une. Ils parlent tout seuls. Si la parole prophétique n'a pas tellement de place dans notre vie, on risque de pas être tellement connecté. Ou alors on va croire qu'on est connecté alors qu'on est complètement déconnecté. Parce que c'est un monologue. Et plus un dialogue avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Seigneur, ce matin, nous montre un merveilleux cadeau qu'il fait pour ses enfants. Et ça, je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience, parce que c'est quelque chose auquel le monde n'a pas accès. Le monde ne peut pas être joyeux malgré les épreuves et dans l'affliction. Le monde, sans passer par Jésus-Christ, ne traverse pas l'existence main dans la main avec Dieu pour ami. Non, parce que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et le monde traverse l'existence dans une solitude. Et avec souvent un cœur qui est dépité de ne pas recevoir assez, plutôt qu'un cœur émerveillé de recevoir, malgré tout. Ces choses-là, le Seigneur nous donne la possibilité de les vivre. C'est un cadeau qu'il nous fait, de pouvoir être toujours joyeux, toujours. Comme Paul, y compris dans la tristesse. Vous allez me dire, c'est du n'importe quoi, ça se contredit. Ça ne se contredit pas, c'est le miracle de l'Esprit de Dieu. Tristesse, oui. Et joie, oui aussi, en même temps. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous fait. À nous de le vivre. Parce que nous recevons une injonction, soyez toujours joyeux. Maintenant, le Seigneur nous dit, moi c'est mon cadeau, je le mets à votre portée. C'est là, c'est pour vous, à vous de vous en saisir. N'éteignez pas l'esprit pour cela. Ne méprisez pas les prophéties pour cela. Abstenez-vous de toute forme de mal pour cela. Alors, maintenant, quel mode de vie ? Vous avez le choix entre le mode du monde ou le mode en Jésus-Christ. Vous pouvez le faire. Choisissez-le. Prions. Seigneur, tu places devant nous ce matin ce merveilleux cadeau. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous rendre compte à quel mode de vie tu nous ouvres, quel mode de vie nous avons accès. Peut-être nous ne nous en rendions pas compte, peut-être nous sommes passés à côté jusqu'ici. Peut-être nous l'avons vécu un temps et nous l'avons perdu. Ou peut-être nous le vivons partiellement et nous voulons l'approfondir. Seigneur, merci. Merci parce que il y a ce miracle avec toi qui est possible d'être toujours joyeux. Et nous voulons adopter ce mode de vie en Christ. Il y a la possibilité avec toi de ne pas vivre notre journée dans la solitude, mais de t'avoir vraiment pour compagnon de route, compagnon de joie, notre ami qui rythme nos jours, dont le cœur bat à l'unisson du nôtre. Et pour ça, Seigneur, c'est la prière. Ce mode de vie, Seigneur, où nous te parlons, où nous sommes vraiment connectés avec toi, où nous te parlons de tout, où nous te confions tout, où nous te remercions, où nous te confions nos inquiétudes, où nous te présentons nos projets, où nous te consultons. Connectés avec toi. Ou bien, Seigneur, nous pouvons rester dans la solitude. Nous nous entourons de nos amis humains. Nous essaierons de compenser, mais comme l'a dit le philosophe, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui peut le remplir. Seigneur, aide-nous à vivre connecté vraiment avec toi. Et puis Seigneur, enfin ce mode de remerciement, de gratitude. Tu vois Seigneur que nous avons plutôt des tendances à nous plaindre, à nous apitoyer, à nous plaindre de ne pas avoir suffisamment reçu. Et c'est vrai que des fois il y a des choses pas du tout sympathiques. Mais au milieu de ces choses pas du tout sympathiques, Seigneur, toi tu ne veux pas que nous focalisions notre regard sur ces choses-là, mais plutôt sur les cadeaux que nous avons quand même reçus de ta main. Apprends-nous, Seigneur, à vivre en disant merci, en cherchant vraiment, Seigneur, à apercevoir des motifs de dire merci dans nos journées. Seigneur, tu vois ce qui s'oppose à cela dans nos vies, le manque de lecture de ta parole, le manque de prise de conscience de ta parole prophétique. Tu t'adresses à nous et nous faisons bien d'y prendre garde, d'y faire attention. Et puis Seigneur, cette énergie, cette puissance formidable qu'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui produit son fruit, que nous puissions veiller à en être remplis constamment. Seigneur, ce matin, tu nous demandes d'évaluer notre vie, d'évaluer là où nous en sommes. En quel mode est-ce qu'on vit nos journées ? Et tu nous demandes de changer de mode. Tu nous dis, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons écouter ta voix ce matin. Et s'il le faut, changer de mode de vie chrétienne. Au nom de Jésus. Amen.